Donc en fait, l'idée c'était, après les deux témoignages de ce matin, d'essayer de montrer un peu quel projet politique le parti de gauche a réfléchi, a essayé de mettre en place pour répondre un peu aux problématiques qui ont été soulevées ce matin. Bah, avant de présenter ça, je voudrais dire quand même que l'agriculture, c'est pas une activité comme les autres, c'est une activité particulière, et qu'elle a une place centrale quand même dans l'histoire de l'humanité. Alors sans vouloir faire un cours d'histoire, je rappellerai quand même qu'elle est apparue en plusieurs foyers, mais il y a trois foyers centraux quand même d'apparition de l'agriculture, dont un qui s'est situé au Moyen-Orient et ensuite qui s'est répandu en Europe, c'est il y a 10 000 ans. C'est ce qu'on appelle le croissant fertile, quoi. C'est l'Irak et la Syrie actuelles. Et quand les gens ont décidé de se sédentariser par rapport à ces activités agricoles, il faut savoir quand même que l'aspect vivrier, la valeur nutritive de cette agriculture était inférieure à la chasse et surtout à la cueillette qu'ils pratiquaient avant. Donc ça veut dire qu'on pourrait concevoir pour le coup que l'agriculture, il y a autre chose que l'aspect vivrier derrière. Et qu'elle structure en définitive les sociétés, les rapports sociaux. Tout simplement parce qu'à un moment donné, elle va s'interroger sur comment on prend le contrôle du vivant, comment une société s'inscrit dans son territoire. Elle va questionner aussi les rapports à la vie, à la mort en fonction du temps et de l'histoire. Donc tout ça pour dire que l'agriculture, c'est pas qu'une affaire de spécialistes, c'est l'affaire de tous. Et d'autant plus que écosystèmes, agrosystèmes et humains sont fondamentalement liés l'un à l'autre. Donc je prends cette précaution un peu au départ pour dire que moi je ne m'exprimerai pas en tant qu'expert, je ne suis pas agronome, je vous demande un peu d'indulgence sur ces aspects-là. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui maîtrisent mieux ces questions techniques que moi. Donc Thomas, il a témoigné tout à l'heure. Moi, ce qui m'a semblé intéressant dans son témoignage, c'est qu'à un moment donné, il a parlé de relocalisation des activités agricoles. Il a parlé de conversion, même si c'est pas exactement le terme, mais en tout cas en agriculture paysanne et biologique. Et surtout, ces deux choses, il les a reliées à un écosystème. C'est-à-dire qu'on tient compte de l'écosystème quand on relocalise et quand on fait une reconversion bio. Et en même temps, ce qui a été intéressant aussi, c'est lié aux activités d'emploi, c'est-à-dire qu'on a vu effectivement qu'en fonction du modèle de production choisi, ben, ça induisait ou pas des emplois, et aussi des rémunérations. Et ensuite, l'autre témoignage a bien pointé un des problèmes majeurs de l'agriculture actuellement, c'est-à-dire l'accession aux fonciers. En fait, puisque le modèle actuel dominant est, avec ses logiques capitalistes et libérales, dévoreur de terres. C'est quelque chose qui nous paraît important, cette notion de foncier, j'y reviendrai tout à l'heure, d'autant que l'agriculture, c'est quand même 2/3 du territoire national, et l'agriculture a des responsabilités majeures, économiques, sociales et écologiques, environnementales. Donc nous, notre idée au parti de gauche, c'est effectivement que la relocalisation et la reconversion biologique des activités humaines et donc de l'agriculture sont vraiment au centre de notre projet politique, dans la mesure où elle pose pour nous, et elle se pose plutôt comme un des piliers de l'écosocialisme et de la planification écologique. Et donc, nous, ces expériences locales, ce qu'on aimerait, c'est qu'elles puissent se développer et qu'elles deviennent en définitive le modèle dominant à la fois dans notre pays, mais on a une visée aussi internationaliste, même si ça fait peut-être prétentieux de dire ça depuis Chasseneuil, mais on pense que c'est un modèle en définitive qui devrait se propager à l'ensemble de la planète si on veut qu'à un moment donné, on puisse continuer à y habiter. Donc c'est pour ça que les échelles locales, régionales, nationales et mondiales en définitive sont imbriquées les unes dans les autres. Et je voudrais par rapport à ça donner quelques chiffres, alors j'en donnerai pas beaucoup, ça sera les seuls, je crois. Effectivement, on ne peut pas continuer à penser, et je sais qu'ici il n'y a personne qui le pense, que produire plus permettra d'éliminer la faim dans le monde. La situation actuelle, elle est quand même assez complexe et paradoxale, mais selon l'Organisation des Nations Unies,
On sait qu'actuellement, il y a 1,5 milliard d'adultes dans le monde qui sont en surpoids. On sait qu'il y a 30% de la nourriture qui est gaspillée et qu'il y a plus d'un milliard dans le monde qui sont en situation de malnutrition ou de sous-nutrition. Et parmi ces 1 milliard, une grande, je ne vais pas dire tous, mais une grande, grande majorité sont des paysans. C'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, en définitive. Donc on voit bien que le problème de la souveraineté alimentaire est un enjeu majeur des années à venir. Donc si on est d'accord pour dire que la solution, ce n'est pas de produire plus, ce serait plutôt de produire où il faut et comme il faut. Ça serait plutôt ça l'idée. Donc la question qu'on se pose en définitive, c'est comment nourrir tout le monde avec une nourriture de qualité tout en respectant ce que nous on appelle la règle verte. Alors, la règle verte, je ne vais pas trop m'apesantir dessus parce que je pense que Martine Billard en parlera cet après-midi. Mais cette idée que la règle verte doit être l'indicateur central du pilotage de l'économie. Alors, si vous voulez, nous, on a parlé de règle verte parce qu'à un moment donné, on nous bassinait les oreilles avec la règle d'or, hein, qui était liée aux politiques d'austérité et d'ajustement structurel imposées par, vous savez, tous les organismes internationaux qu'on connaît, la Banque mondiale, le FMI, la BCE, et j'en oublie peut-être un ou deux. Donc l'idée, c'est surtout d'assurer notre responsabilité devant l'humanité et son écosystème en supprimant à terme la dette écologique. Donc j'irai pas plus en avant sur cette question-là, peut-être qu'il y aura des questions après ou que ça sera réabordé cet après-midi, mais comme on est limité en temps d'intervention, je ne peux pas non plus tout développer. Donc je reprends ma problématique centrale, c'est comment nourrir les hommes correctement et durablement. Alors je propose de faire ça en deux parties. Une première partie qui serait une partie consacrée au modèle actuel et une deuxième partie qui serait une partie consacrée au modèle qu'on aspire de nos voeux. Donc la première partie, le modèle actuel agricole, alors on parle de modèle, nous, et pas de système. Donc quand je parle du modèle agricole actuel, c'est, j'entends par là, l'agriculture conventionnelle, dans le sens celle qui fait convention, c'est-à-dire industrielle et chimique, qui n'est pas forcément intensive d'ailleurs, par contre, qui est productiviste, puisqu'un de ses objectifs quand même, c'est, ou en tout cas une de ses conséquences, c'est la suppression massive d'emplois. Donc par conséquent, on peut la considérer comme productiviste. Alors, est-ce que cette agriculture qui domine le monde actuellement, c'est la seule agriculture possible? Est-ce l'agriculture avec un grand A? Est-ce qu'il y en a d'autres possibles? Alors, on a vu que oui, par rapport à des exemples locaux. Donc, ce qui est intéressant, et c'est là où je reviendrai un peu à l'histoire, parce que je pense que pour comprendre le système actuel, il faut bien voir d'où il vient quand même. Et il me semble intéressant de comprendre que l'agriculture actuelle en France et même l'agriculture européenne, elle est le résultat d'une histoire, de choix politiques et de choix techniques aussi. Et que ce n'est pas le seul ensemble agronomique possible, il y en a d'autres. Donc je le disais tout à l'heure, il y a 15-20 foyers d'apparition de l'agriculture dans le monde. Il y a trois grands foyers d'intervention, il y en a eu d'invention, un en Amérique centrale, un en Asie et celui que j'évoquais tout à l'heure, qui, par extension, a touché l'Europe après. Et c'est lui que j'aimerais questionner un petit peu, en essayant de voir sur quels principes agronomiques il s'est bâti. Donc j'en retiendrai quatre. Le premier, il s'est bâti sur une approche réductionniste, qui est une approche qui est héritée de la Grèce antique et de la science européenne du Moyen-Âge, c'est-à-dire qui n'analyse pas les choses en système, quand elle est confrontée à un problème, poser une équation et isoler tous les termes de l'équation. D'accord ? Par exemple, alors là je parle sous couvert des spécialistes, je me lance. Par exemple, une plante va avoir besoin de carbone, elle va avoir besoin d'oxygène, bon, elle va trouver ça dans l'air et dans l'eau, puis elle va avoir besoin d'azote, de phosphore, de potassium, et on va l'y amener sous forme d'engrais. Or, si on réfléchissait de façon systémique, on va dire, à ce moment-là, on réfléchirait plus à comment la plante va s'adapter au milieu où on veut l'implanter et pas comment on va adapter le milieu à la plante, en définitive. D'accord ? Donc, cette approche réductionniste, elle explique, en définitive, pas mal de choses. La deuxième chose aussi, c'est le développement de cette idée qu'il faudrait faire des cultures pures. Donc, ce qui a entraîné, en définitive, la prédominance de la monoculture. Et ensuite, il y a la question des semences aussi qui est importante. On est maintenant face à des semences de plantes et des semences également d'animaux, j'ai envie de dire standardisées, sur des modèles aussi très réductionnistes. À la Renaissance, on nous a expliqué que les paysans ne savaient pas. Et à partir de là, s'est mis en place un mécanisme, alors je fais vite, hein, d'industrialisation, où maintenant on parle de semences améliorées. Mais c'est quoi les semences améliorées ? C'est tout simplement qu'on va isoler le facteur rendement, donc on est toujours dans le réductionnisme de tous les autres facteurs, et on va avoir des plantes et des animaux extrêmement performants, mais aussi très fragiles. Pourquoi ils vont être très fragiles ? Car ils ont été souvent sélectionnés dans des conditions artificielles. Quand on va les implanter en milieu naturel, on va être obligé d'avoir recours à des engrais ou à des pesticides pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent pousser en définitive et résister aux éventuelles attaques. D'accord ? Et par exemple, dans l'actualité récente, il y a eu le barrage de Sivens. Tout le monde en a entendu parler ici. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Enfin, je ne vais pas expliquer ça dans le détail, mais en définitive, on est confronté à du maïs. Et depuis 70 ans, la sélection du maïs qui a été opérée a conduit à privilégier l'irrigation. Si ce n'est qu'avec les problèmes de réchauffement climatique, à un moment donné, les agriculteurs là-bas avaient des problèmes d'irrigation, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution ? Le barrage. Alors que tout simplement, on pourrait se poser la question du plan de vue de quel type de semences on implante là et est-ce qu'on ne peut pas retravailler sur des semences qui sont moins gourmandes en eau, etc. Donc c'est pour donner un exemple. Donc on voit bien qu'il faut penser les choses de façon systémique et pas réduire les choses à un aspect seulement. Le quatrième point qui explique un peu pourquoi on en est là, c'est une vision très productiviste des choses. Dès le début, on a essayé de remplacer l'homme par la machine. Et tout simplement pourquoi ? Parce que on avait besoin de bras, on avait besoin de main d'œuvre. Alors, bien sûr, nous, on évoquait l'exode rural, on pense à la révolution industrielle récemment. Mais avant, il fallait construire des pyramides, il fallait construire des cathédrales, il fallait construire des cités-états, etc. Et donc, cette logique productiviste qui consistait à remplacer l'homme par la machine, elle a touché forcément le secteur agricole, puisque c'est là où il y avait le plus de bras disponibles. Je pense qu'en ayant bien ça en tête, on comprend mieux aussi peut-être pourquoi on en est là et quelles sont les choses qu'il faut toucher pour changer la donne. La question qu'on se posait, est-ce qu'avec ce système on peut nourrir durablement et convenablement les hommes ? Nous, on répond non. On répond non parce qu'on pense que cette course à la compétitivité, c'est une impasse, c'est une folie du point de vue de l'intérêt général. Effectivement, du point de vue économique, la France, elle trouvera toujours plus compétitive qu'elle sur le marché mondial. Compte tenu des conditions de production du lait, par exemple, en Nouvelle-Zélande, des élevages de poulets industriels au Brésil ou du bœuf aux États-Unis. Et en même temps, ce modèle de production, il a des externalités négatives, agricoles, c'est-à-dire coût de la décontamination de l'eau, par exemple, etc. Et ces externalisations sont payées par la société. Donc, du point de vue économique, ça ne nous semble pas viable. Ça ne nous semble pas viable du point de vue social. Ça a été souligné à plusieurs reprises, mais on assiste à un effondrement de la poids agricole depuis très longtemps. C'est moins 20 000 par an, donc c'est considérable. Alors que dans le même temps, le chômage ne fait qu'augmenter et qu'on assiste à des phénomènes de concentration des surfaces agricoles utiles, comme ça a été dit tout à l'heure. Et on a même des endroits où il y a une dissociation entre le capital et le travail. Et ce n'était pas forcément quelque chose qui était très répandu dans l'agriculture. Et quand on a, c'est un peu les grandes fermes dont vous parliez tout à l'heure, quand on arrive à cette dissociation capital-travail, on est vraiment dans un modèle plus qu'industriel, j'ai envie de dire. Du point de vue social, il y a les dégâts sur la santé des travailleurs de l'agriculture également, qu'il ne faut pas oublier. D'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis, bien sûr, du point de vue écologique, bah, le modèle productiviste contamine l'environnement, détruit la biodiversité, repose sur l'utilisation de ressources non renouvelables, énergie fossile, phosphate, potassium, etc., et donc contribue forcément au réchauffement climatique. Donc, pour nous, ce système, il n'est pas capable de relever le défi que je posais tout à l'heure en problématique. C'est pour ça que nous sommes plutôt favorables à l'agroécologie, à l'agriculture paysanne et biologique, et à une révolution technique et radicale, pour reprendre les propos de Marc Dufumier. Alors, c'est quoi la transition écologique de l'agriculture? Donc, la transition, elle renvoie à une méthode de gouvernement. Excusez-moi. Et cette méthode, c'est la planification écologique. C'est-à-dire l'organisation dans le temps de nos choix politiques. Et ça, c'est aussi une rupture avec le modèle productiviste, qui, lui, est plutôt soumis aux impératifs du court terme et des logiques capitalistes. Donc, on pense qu'un aspect qu'on ne va pas arrêter à l'agriculture, qu'on pourrait associer à d'autres problématiques, c'est de re-réfléchir dans le temps long, de reprendre un peu cette idée que on doit arrêter de raisonner temps court et se remettre dans le temps long. Et ça, j'ai envie de dire, pas que pour la question agricole. Cette transition, qui serait une transition de moyen terme vers l'agriculture biologique, nous paraît indispensable pour répondre aux impasses actuelles, c'est-à-dire le réchauffement climatique, la contamination de l'environnement, je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais c'est me paraît important, l'appauvrissement des sols et de la biodiversité, les risques sanitaires, et le fait que c'est un modèle qui n'est pas du tout sobre en énergie. Comment nous, on voit les choses pour essayer d'amener des changements importants, cette révolution technique et radicale que j'évoquais tout à l'heure? Il nous semble que un des instruments fondamentaux, c'est la politique foncière. C'est un levier déterminant pour favoriser les installations et les transmissions en agriculture biologique et paysanne. Et ce qui est intéressant, c'est un levier national et régional. Il n'est pas communautaire, dans le sens européen, je veux dire. Donc on peut vraiment avoir la main dessus. Cette politique foncière, elle aurait deux objectifs principaux. D'abord, préserver le foncier agricole et naturel, et ensuite redistribuer vers une agriculture paysanne plutôt que de les laisser aux aléas de la spéculation et de la concentration, comme le disait tout à l'heure. Et pour ça, on voudrait créer un outil, un EPFR, un établissement public foncier rural, dont l'objectif serait de mobiliser le foncier agricole et de le mettre justement à disposition de l'agriculture paysanne et écologique. Donc l'idée, c'est de mettre un coup d'arrêt massif à la disparition des terres agricoles. Pourquoi? Parce qu'il y a concentration foncière, ça on l'a dit, il y a spéculation, on l'a dit, et puis on voit se développer beaucoup de cultures autres que vivrières. Les agrocarburants et aussi l'installation de panneaux solaires, par exemple. Et puis c'est un moyen aussi, pour nous, ça sera un moyen de lutter contre l'accaparement de terres qu'on évoquait tout à l'heure, notamment avec l'exemple que je donnais sur les 1700 hectares achetés par un groupe chinois. Donc ça nous paraît ça indispensable d'avoir à un moment donné un levier public pour pouvoir impulser ce qui est fait localement de façon nationale. On peut utiliser d'autres outils aussi, hein. Il y a la loi littorale qui existe en France et qui peut permettre d'empêcher le bétonnage et de stopper l'étalement urbain qui était évoqué tout à l'heure à industriel, qui se fait aujourd'hui au détriment des ceintures vertes de maraîchage qui entourent souvent les agglomérations. Donc, cette politique foncière, cet instrument serait au service de la généralisation des surfaces consacrées à l'agriculture biologique, avec un système d'aide qui ne serait plus en fonction des surfaces, comme ça a été dit tout à l'heure, mais en fonction du nombre d'actifs agricoles qu'il y aurait sur une exploitation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il nous paraît intéressant de plus lier les aides effectivement aux hectares, mais au nombre d'hectares par paysan. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on lie les logiques économiques, environnementales et sociales aussi. Et pour nous, ça sera un moyen d'arrêter deux des problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire la course à l'agrandissement et à l'endettement qui va souvent avec. Ensuite, et c'est là où peut-être j'aurais besoin d'un apport technique de Thomas, c'est sur la relocalisation des productions couplée à l'acquisition d'une autonomie fourragère sur les exploitations par la réintégration du couplage justement agriculture-élevage pour arriver à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'autonomie protéique. C'est ça ? Tu peux expliquer ce que c'est rapidement ? Je pense que tu le feras mieux que moi.
Bah, le but, c'est de faire des exploitations de polyculture-élevage. Enfin, je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ait des énormes céréaliers dans le bassin parisien, Picardie, etc. Et des régions d'élevage qui sont plus en Bretagne et même le Limousin, etc. Donc là, on a une surproduction d'azote sous la forme de fumier en Bretagne et un appauvrissement des sols dans les régions céréalières qu'on va combler en apportant de l'azote minéral de production de synthèse qui vient directement du pétrole, quoi. Et en plus, les animaux qu'on va les nourrir avec de l'azote produite en Amérique du Sud, OGM, qui va appauvrir les sols là-bas en phosphate et azote. Donc le but, c'est de remettre de l'élevage dans les régions céréalières, remettre des cultures dans les régions d'élevage. Et donc, pour ça, il faut refaire des protéines dans les fermes en polyculture élevage en incluant des légumineuses dans les rotations. Donc les légumineuses, c'est une famille végétale qui fait en fait une symbiose avec un champignon qui va capter l'azote de l'air. Et qui est en fait, voilà, donc plutôt que d'utiliser du pétrole pour prendre de l'azote, on va le capter dans l'air et le remettre dans les sols naturellement. Et du coup, en remettant des légumineuses dans les rotations, on va permettre de moins être dépendant de la fertilisation extérieure, de récupérer de l'azote pour nourrir les animaux. Enfin bref, il faut plus penser de façon systémique.
Merci. d'autre part, on pense qu'effectivement, pour favoriser cela, il va falloir conditionner les aides publiques à l'emploi et à cette reconversion. Donc conditionner les aides publiques à la diversification des cultures, des spécialisations et des concentrations régionales, hein, c'est ce que tu expliquais à l'instant. Conditionner les aides à une rotation élaborée des cultures avec justement l'introduction obligatoire de légumineuses. Également réaffirmer le droit inaliénable, je vais y arriver, des agriculteurs à cultiver et à échanger leurs semences. En ce sens, nous refusons des dépôts de brevets sur le vivant. Et donc, on pense qu'il faut multiplier les variétés végétales à adapter aux différents territoires. On pense également qu'il faut conditionner des aides au fait que les filières soient couplées entre production et consommation, notamment par rapport à la restauration collective et au circuit court. En soutenant dans les appels d'offres, effectivement, ces deux aspects. On pense également qu'il faut conditionner les aides, ou en tout cas soutenir la vente et la transformation directe sur les exploitations, ainsi que les petites entreprises agroalimentaires, artisanales, qui sont relocalisées. Et enfin, on pense également qu'il faut limiter de plus en plus fortement les engrais chimiques, les pesticides, les herbicides et les antibiotiques, parce que effectivement, ça, c'est même pas qu'il faut limiter, c'est qu'il faudrait arriver même à ne plus les utiliser. Pour ça, il nous semble qu'il faut réorienter l'appareil de recherche et l'enseignement public, et notamment sortir, bon, tout à l'heure tu évoquais le fait que la SAFER était bien noyautée aussi, quelque part, en tout cas... était en tout cas, voilà, en connivence avec certains financiers ou agro-industriels. Eh ben, nous, on pense qu'il faut sortir, qu'il faut sortir la recherche et l'enseignement public, qu'il faut sortir de ces institutions, les lobbies financiers et agro-industriels, et qu'il faut redéfinir les missions de la recherche publique, notamment un travail particulier, par exemple, sur le bien-être animal aussi, etc. Si ce n'est qu'à un moment donné, quand on dit ça, on se heurte à quelque chose, c'est l'incompatibilité de ce qu'on propose avec les règles libérales de l'Union européenne. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit il y a deux possibilités. Soit, alors je ne sais pas, on va dire plan A, plan B. Alors, soit on fait un plan A, puisqu'il y a renégociation de la PAC, je crois, en 2020. Puisqu'elle a été renégociée 2014-2020, c'est ça? Alors dans la PAC, vous savez, il y a deux piliers. Il y a le premier pilier qui concerne le soutien des marchés et des revenus agricoles. Donc le système d'aide aux agriculteurs constitue la majeure partie. Et puis le deuxième pilier, c'est la politique de développement rural. Donc nous, nous pensons qu'il faut réinventer la PAC et sortir de ce qui était évoqué tout à l'heure par le maire d'Alloue. C'est-à-dire de sortir de la logique des subventions qui va vers cette idée qu'on peut vivre d'aide et d'aide qui sont de plus en plus découplées de la production. Nous, on pense au contraire que les subventions doivent servir, par exemple, peuvent être allouées, par exemple, à la restauration collective par voie contractuelle, si celle-ci est bio, par exemple. Mais qu'on peut aussi les conditionner à ce que disait Thomas tout à l'heure, ben, zéro labour, développement des vers de terre, etc., à des actions positives qui vont dans le sens de l'intérêt général, en définitive. Et si ça, c'est pas possible, ben, nous, on pense à un moment donné qu'il faut désobéir au traité européen au nom d'une clause supérieure permettant justement la transition écologique. Donc, une fois de plus, on est dans... Soit on arrive à inverser les rapports de force en Europe, et si on n'y arrive pas, eh ben, à un moment donné, on fait jouer cette clause que j'évoquais à l'instant. Donc ça, c'était plus pour tout ce qui concernait la production, relocalisation, reconversion. On pense également, donc là j'irai assez vite, qu'il faut consommer autrement. Un premier axe d'amélioration, repose sur une baisse de la consommation des protéines animales, leur viande, mais également produits laitiers, hein, qui permettrait de réduire le détournement des cultures pour l'alimentation animale, justement. Donc ça, c'est un premier aspect dans le consommer autrement. Il me semble qu'un deuxième axe d'amélioration, c'est sur la réduction du gaspillage alimentaire. Alors, il y a différents types de gaspillage alimentaire, mais il y en a un notamment qui est lié aux pertes après récolte dans les pays en développement, parce que les produits ne sont pas adaptés à la transformation, parce qu'il y a des problèmes de stockage, etc. Et puis, un travail à faire aussi sur les déchets produits par les consommateurs et les distributeurs dans les pays industrialisés. Donc voilà, hein, assez rapidement brossé comment au parti de gauche on voit les choses. Pour conclure... Je voudrais dire que, effectivement, l'industrialisation actuelle de l'agriculture et la course à la compétitivité prix sur le marché mondial vont à l'encontre de la révolution technique et radicale que j'évoquais à l'instant. Et si on veut que cette révolution technique et radicale soit possible, il me semble à un moment donné qu'il faut parler quand même de deux conditions fondamentales. La première, c'est qu'il va falloir faire nombre. C'est-à-dire qu'il va falloir que cette transition s'appuie sur un mouvement populaire assez large, sur une intervention citoyenne, on peut dire aussi, Et pour ça, il va falloir qu'une alliance qui se fasse entre une majorité de consommateurs. Alors, attention, il faut tenir tous les buts de la chaîne. Il faut bien que je commence par un, donc je commence par les consommateurs. On ne peut pas dire que l'impact des comportements individuels n'a pas... Quand on regarde l'impact des comportements individuels, qu'on le traduit en somme, ça a forcément des impacts macroéconomiques. En 5 ans, on a multiplié par deux, la consommation de produits bio. Quand je dis il va falloir s'appuyer sur les consommateurs, je pense aussi que... Alors nous, on a un parti politique, donc on s'inscrit dans des élections, on pense que c'est important d'avoir des élus, et puis quand on a des élus qui agissent tel que ça a été montré, on voit effectivement qu'avoir des élus, c'est quelque chose qui peut être très positif. Si ce n'est qu'on considère que ce n'est pas le seul levier, qu'à un moment donné, si on veut faire nombre, bah, il faut aussi investir les lieux de pouvoir intermédiaires. Alors les lieux de pouvoir intermédiaires, c'est les associations de consommateurs, c'est les revues, c'est les réunions publiques, c'est tout ce qui contribue à former l'opinion, parce que ça nous paraît indispensable à un moment donné si on veut effectivement qu'il y ait une majorité de gens qui se dégagent. Donc je parlais des consommateurs, ensuite c'est les paysans qu'il faut convaincre. J'écoutais, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est Marc Dufumier qui disait qu'il faudrait qu'il y ait à peu près 85% des agriculteurs qui suivent cette démarche. Alors on en est loin, mais tout à l'heure j'évoquais les dégâts de cette agriculture sur la santé des travailleurs d'agriculture. Et je dirais que ça fait déjà une dizaine d'années qu'on voit beaucoup d'agriculteurs, voire les enfants d'agriculteurs, qui ont contracté des maladies, qui commencent à soit attaquer en justice, soit justement porter des projets de reconversion pour sortir de ces choses-là. Et donc, ça me paraît pas suffisant, bien entendu, mais à la fois les exemples qui sont donnés et puis le fait que les acteurs eux-mêmes prennent conscience qu'au final, ils se sont fait du mal, eh bien, ça peut contribuer à faire aussi bouger les choses. Et il me semble aussi qu'on doit pas trop être sectaire. Des fois, on a tendance à être assez sectaire entre nous. Enfin, on pense qu'on a raison surtout, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'appuie aussi sur le courant environnementaliste. Parce que si on veut faire nombre, il va pas falloir exclure. Et ça, je dirais que c'est pas que pour le problème de la reconversion de l'agriculture, de la transition écologique de l'agriculture, je dirais que c'est quelque chose qu'on devrait essayer de faire en général. Voilà. Et le deuxième pilier fondamental, à mon avis, de cette révolution, c'est le partage des richesses. C'est le partage des richesses, et c'est pour ça que notre projet, il est éco-socialiste, c'est le partage des richesses. Car si on ne partage pas les richesses, on va exclure les catégories ou les classes populaires de ce processus, alors que pour nous, elles doivent être le moteur. Sinon, l'agriculture biologique restera une agriculture de niche pour gens qui ont les moyens. Donc, à un moment donné, si la reconversion écologique de l'agriculture ne s'accompagne pas d'un partage des richesses, à ce moment-là, de notre point de vue, elle n'est pas possible. Et d'ailleurs... Qu'est-ce qu'on a dit sur les terres agricoles, si ce n'est le fait qu'il fallait partager la richesse foncière? Donc on est bien dans les mêmes logiques. Eh bien, j'en ai fini.